Lizzie présente Au-delà de l'horizon. Une nouvelle de Franck Tillier, issue du recueil Au-delà de l'horizon, lue par Pierre Lognet. C'est le coup de fil de ma vie, mais il ne peut pas tomber au pire moment. À l'autre bout de la ligne, un officiel de la NASA m'informe que la mission Acheron 2 débute et qu'une voiture passe me prendre à 18h devant mon pavillon de banlieue parisienne pour m'emmener à l'aéroport. Le point noir, c'est qu'Hélène doit accoucher dans les 48 prochaines heures. Je veux absolument assister à la naissance de mon fils. Alors que faire? Abandonner le rêve pour lequel je me démène depuis 2 ans? Mon oreille est collée contre le ventre arrondi de ma femme. Je perçois les coups de pied du bébé et y cherche mes réponses. Lui aussi a son mot à dire après tout. Si j'accepte la mission, je ne serai pas là lorsqu'il ouvrira les yeux, ni quand il fera son premier sourire. Toutes ces premières fois que je manquerai et qui ne pourront plus jamais être rattrapées. Je me redresse, observe Hélène, caresse sa peau tendue et son nombril qui ressort comme un bourgeon de rose. Chaque heure de chaque jour, je penserai à vous deux. Et puis tu m'enverras des photos. Je verrai Nathan grandir et nous deux, on sera toujours l'un auprès de l'autre. Ah ouais, c'est pas si loin, dit-elle pour se rassurer. Au moins, c'est sur Terre. C'est sur Terre. Allez, va faire ton sac, le temps presse. J'attends ce moment depuis si longtemps qu'il ne me faut qu'une heure pour boucler mes bagages. Un simple sac de sport grand format contenant le strict nécessaire. La vie sous le dôme sera plutôt rudimentaire. De toute façon, je n'ai pas le droit d'emporter plus de 15 kilos. 17h40, déjà. Je déteste. Le temps des dernières fois. Un dernier café, un dernier regard vers mon potager où poussent des variétés de légumes et de fruits. Un dernier coup de téléphone à ma mère, qui, à l'heure qu'il est, remonte de Marseille pour accompagner Hélène à l'hôpital le jour J. J'essaie de retenir mes larmes, mais c'est difficile. Beaucoup de choses auront changé quand je reviendrai. Hélène essuie la goutte qui pointe au coin de mon œil. Pour elle aussi, le départ est un moment compliqué. Je ne serai pas là pour couper le cordon. Je crois que je l'aime plus que jamais. Elle va tellement me manquer. J'imagine alors l'intense émotion de ces hommes et de ces femmes qui, dans les années à venir, quitteront vraiment la Terre pour s'envoler vers Mars. J'envie leur force et leur courage. Je tends l'ordinateur portable à ma femme, avec la messagerie déjà paramétrée par les techniciens de la NASA pour qu'elle puisse me joindre au dôme. Notre lien, tu le gardes toujours à proximité. Je t'écris, tu m'écris. Envoie-moi une photo par jour du bébé. Nos communications seront limitées, mais je veux le voir grandir et ne manquer aucun instant. Et n'oublie pas nos messages secrets. À n'utiliser qu'en cas d'urgence si tu veux pas que la NASA sache, j'ai bien compris. Jure-moi encore que tu prendras soin de toi. Que tu feras attention. Mon monde sera beaucoup moins dangereux que le tien. Il n'y aura pas âme qui vive à des dizaines de kilomètres à la ronde. On sera surveillé en permanence par les meilleurs spécialistes de la NASA. C'est à toi de faire attention, Hélène. Ici, en ville, c'est beaucoup plus risqué que là-bas. Je te contacterai dès mon arrivée. Une voiture vient de klaxonner devant la maison. Je préfère ne pas m'attarder pour éviter des adieux déchirants et m'engouffre dans une berline noire. Un curieux sentiment me tord le ventre quand je disparais à l'angle de la rue. Une joie immense mêlée à l'amertume de devoir partir, d'abandonner mon épouse si proche de la date de l'accouchement. Mais je me rassure en me répétant que j'ai fait le bon choix. Il y a encore 5 ans, je n'étais qu'un étudiant en biologie, spécialisé en exobiologie. J'étudie tous les processus pouvant mener à l'apparition de la vie. J'ai postulé voilà 24 mois pour participer au projet Acheron 2. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir été choisi parmi plus de 10 000 candidats, après de rudes entraînements et d'interminables batteries de tests ultra sélectifs, dont certains réalisés dans les locaux même de la NASA. Je fais partie des 6 privilégiés qui vont étudier et optimiser pendant 365 jours les futurs voyages sur Mars. Et si je relève le défi, je serai peut-être l'un de ceux qui seront choisis pour un jour s'envoler vers la planète rouge. À l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un homme en costume m'accueille.
Il est tout sauf avenant.
Un visage grêlé, des lèvres en quartier de pamplemousse. Il s'appelle Ronald Charon et vient de Washington. Il ne me remet pas de billet d'avion comme convenu et m'annonce que le vol se fera par jet privé. Un jet privé? Votre destination n'est pas Hawaï. Mais sachez que les conditions météorologiques et le dôme seront rigoureusement identiques à ceux qui vous ont été décrits dans la documentation. Le matériel de laboratoire que vous avez demandé vous attend déjà sur place.
Pas Hawaï? Comment ça?
La NASA souhaite que cette mission reste totalement confidentielle.
Pas de journaliste, pas de publicité, ni de fuite sur Internet, impossibilité de vous localiser. Je vous rappelle que lors des prochaines missions sur Mars, il faudra s'attendre à atterrir sur des terrains qui ne seront pas ceux planifiés. Cela vous pose-t-il un problème ? Je suis surpris d'être informé de cette façon dans un couloir d'aéroport à quelques minutes du départ, mais j'imagine qu'il n'y avait pas d'autre solution. Avec les portables et les réseaux, tout fuite. Et dire que j'ai étudié la géographie aux alentours du volcan Mauna Loa pendant des semaines ? Me voilà bien avancé. Non, aucun problème. Bien. Remettez-moi votre téléphone, je vous le restituerai dans un an. Un an ? Ça fait bizarre. Je lui tends mon mobile avec un geste d'hésitation. Il était bien stipulé dans la foisonnante paperasse relative au projet que les téléphones et appareils photo n'étaient pas autorisés sur le site et seraient prélevés avant l'installation, mais ce geste, là, maintenant, creuse la distance avec mes proches. Une fois dans le terminal 2F, nous empruntons des couloirs et traversons des postes de contrôle qui ne sont pas ceux du commun des mortels. On me réclame mon passeport, mais jamais ma destination. Avec les contrôleurs, Ronald vérifie que je ne transporte pas de matériel photo ni de caméra. Une demi-heure plus tard, nous sommes installés dans l'avion. Un paradisio longue portée flambant neuf. Une dizaine de sièges confortables, des boissons et de la nourriture à disposition. La NASA a mis les moyens. Je suis seul avec l'Américain dans cet avion qui coûte une fortune et tout à coup, je me sens important. Un peu d'amour propre, ça ne fait pas de mal. Les cachublots sont baissés, à dessein. Impossible de les remonter. Ronald m'a aussi pris ma montre. Il veut éviter que je calcule le temps de trajet. Quand je lui pose une question, il lève le nez de son sudoku, mordit son crayon de bois et prétend ne pas avoir la réponse. Il est juste là pour s'assurer que j'arrive à bon port. J'estime qu'il est aux alentours de 20 heures quand les roues quittent le sol français. Je me sens léger comme un oiseau, libre, investi d'une tâche essentielle. Je m'apprête à vivre isolé, à l'écart des médias, de toute forme de civilisation, déconnecté des réseaux et d'Internet. Cette rupture avec un monde qui va beaucoup trop vite me fera un bien fou. Je vais rencontrer 5 autres personnes fascinantes, brillantes, qui, comme moi, auront laissé derrière elles leur famille, leurs amis. Toutes habitées par le même objectif, réussir cette mission et aller un jour sur Mars. Mais je ne peux chasser l'angoisse qui m'envahit depuis quelques heures. La soudaineté du départ, le changement de destination, cette histoire de confidentialité absolue. J'ai tout de même la méchante impression que la NASA ne m'a pas tout dit. Jour 1. Le choc du train d'atterrissage sur le tarmac me sort de ma torpeur. Je me suis endormi et je ne sais plus très bien où je suis. Ni quand. Jour. Nuit. On a pu voler 10 heures comme 15. Juste avant que la porte s'ouvre, Ronald me demande d'enfiler un masque occultant les yeux. On se croirait dans un film d'espionnage. L'air propulsé par les réacteurs est brûlant comme l'enfer et les odeurs de kérosène m'étourdissent. Un bras me guide jusqu'à un véhicule climatisé, puis on démarre. Pas de radio dans la voiture. Ronald et le chauffeur, un autre Américain, me semble-t-il, échangent des banalités. Je suis stressé. J'ai le sentiment d'être une sorte d'otage, mais j'ai compris dès le départ de Charles de Gaulle que la mission avait déjà commencé. Il doit s'agir d'un test. L'un des buts d'Achéron 2 est d'évaluer l'état psychologique d'un équipage contraint de vivre confiné en milieu hostile. Les colonies qui iront sur Mars devront affronter un interminable voyage de 6 mois dans l'obscurité de l'espace, enfermés, forcés de respirer de l'air recyclé. Si je ne supporte pas un bandeau sur les yeux pendant quelques heures, je ne tiendrai pas longtemps. Je me demande dans quel pays j'ai atterri. Il doit faire une 20aine de degrés. Je réfléchis à des destinations possibles. Désert de l'Utah, corne de l'Afrique, une île quelconque plantée au beau milieu du Pacifique. La NASA possède des bases partout, parfaitement isolées. Le moteur s'arrête après d'interminables kilomètres d'une route chaotique. Charon m'aide à sortir, il m'ôte le bandeau. Je plisse d'abord les paupières, aveuglé par la lumière blanche comme à la sortie d'un tunnel, puis suis cueilli par l'un des plus incroyables paysages qu'il m'ait été donné de voir. Le ciel, d'un bleu pur, quadrillé de traînées moutonneuses d'avions, contraste avec une mer de roches rouges, nuancée d'aplats couleur rouille et ocre. Elle s'étend à perte de vue d'un côté, interrompu de l'autre par un croissant d'imposants reliefs qui ressemble à des volcans. S'il avait fallu décrire la surface de Mars, c'est en observant l'immensité qui m'entoure que je l'aurais fait. Avec ce soleil, plus gros ici que n'importe où ailleurs, et cette aridité implacable qui déjà m'assèche la gorge, pas la moindre trace de végétation, comme si la vie n'existait pas.